En matinée, en après-midi et même en soirée, Plume et Pinceau, toujours prêt à enregistrer.
Ouais, c'est bien. Il y avait aussi qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est Plume et Pinceau.
Ou elle et oh, let's go.
Voilà, voilà, voilà. Une émission exceptionnelle ce jour, cette semaine, puisque nous avons deux invités ES. Soyons bien précis là-dessus, parce que désormais, il ne s'agit plus de rigoler avec ça. Nous avons donc deux invités aujourd'hui. Mandragore, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également Laurent Lefeuvre, bonjour.
Bonjour, j'étais même pas parti, je reste toujours là.
Voilà.
On le sort du placard de temps en temps.
À sa décharge, il ne voulait pas venir, Laurent. Ce sont les gens des éditions Presque Lune qui devaient accompagner Mandragore. Et ils nous ont fait faux bon, on va le dire. Voilà, ils nous ont fait faux bon.
Oh, c'est accusateur, ça, Roger.
Bah, ils ont trop de stress. Ils ont dit non, c'est pas possible. C'est quand même la grande émission de la bande dessinée.
La force de frappe.
Ouais, ouais. Et puis vous savez ce que c'est. C'est quand même un peu le comment ça s'appelle
The Place to Be.
Oui, et puis comment il s'appelle l'émission du dimanche soir sur France Inter
Le masque et la plume.
Voilà.
Mais en plus rigolo.
Voilà, et donc du coup, ça leur a foutu trop la pression, ils n'ont pas voulu venir. Donc voilà, voilà. Donc c'est Laurent qui a gentiment accepté, et puis et il en fait partie, donc du coup, de l'événement dont on va parler. Donc c'est bien normal que vous soyez là. On va vous présenter, mais auparavant, on tient à dire que vous êtes là parce que se tiendra le samedi 31 janvier 2026 de 16h à 21h. Les rencontres de la BD à Grabuge, La Courrouze, un bistrot associatif, bistrot-restaurant associatif, c'est ça?
Voilà, hein, qui se trouve dans les halles en commun. Donc il y a plusieurs halles où il y a la Belle Déchette, où il y a des assos, des artistes et tout.
Ouais.
Voilà, c'est-à-dire que bah, comme tout le monde le sait, effectivement, il n'y aura pas le Festival d'Angoulême, mais vont se tenir...
Ah bon?
Plein de choses. Alors, Mandragore et Laurent, on ne les présente plus. Mandragore, nous avons reçu à plusieurs reprises.
Mais oui.
Ah, parce que vous êtes quand même la dirigeante, on va dire. Ou
la reine des abeilles.
La reine des abeilles.
C'était ça, on l'avait présenté comme ça.
Des éditions de l'œuf.
Mais oui.
Tout à fait. Et en plus de ça, ça tombe bien qu'on vous invite parce que vous êtes désormais, depuis 2026, lauréate du prix Artemisia dans la catégorie Beaux-Arts.
Et oui.
Félicitations, voilà. Bravo.
Voilà, félicitations, là, un prix féministe qui est à l'origine.
Féminin en tout cas, mais effectivement qui a été créé par des féministes qui voulaient mettre en avant la création féminine en BD depuis pas mal d'années, hein, parce que c'était quand même très 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 masculin, la bande dessinée.
C'est vrai.
C'est la
vrai.
Preuve Angoulême.
Voilà.
J'ai envie de dire.
Et tout ça a changé. Et naturellement, on en parlera, j'espère qu'on aura le temps de parler du dernier peintre, cet ouvrage par les éditions de l'œuf, donc, qui vous a valu la remise de ce prix, le prix Artemisia. Et naturellement, Laurent Lefeuvre, que nous avons présenté à moult reprises.
Maître Renard.
Pour, dit aussi Laurent Lefox sur Instagram, puisqu'il est l'auteur, quand même, du super héros, 100% breton, 100% rennais, 100% pubeur salé avec des gros cristaux, le renard garou. Voilà.
Et vous avez réussi à dire super héros, c'est pas dans votre vocabulaire d'habitude.
Non, super héros, c'est le
d'habitude,
mot collant.
C'est super slip.
Collant, c'est terrible le mot collant. Donc voilà. On en parlera, on les questionnera tout à l'heure en fin d'émission, effectivement, sur leurs projets, etc., etc. Mais nous tenons auparavant quand même à ce que vous nous parliez, puisque vous êtes là pour ça, de ce fameux, ces fameuses rencontres de la BD qui se tiendront à Rennes le 31 janvier 2026, afin de célébrer la bande dessinée qui, elle, ne sera pas célébrée de la manière traditionnelle à Angoulême.
Ouais, on va revenir sur tous ces événements. On se s'ambiance un peu musicalement parlant ?
Yes !
Allez, c'est parti.
Party, a super non-stop Uber rocking disco party.
groove de Breaks pour se lancer, parce qu'on enregistre le matin, on l'a pas dit, mais on enregistre le matin et je dois avouer que... Ouf.
Alors, c'est exceptionnel parce que notre invité Mandra Gore est une harpiste, c'est ça hein.
Chanteuse harpiste. Ouais.
Chanteuse harpiste. Et comme vous répétez cet après-midi, et vous pouvez pas rêver. Donc, ouais. Et je tiens à remercier chaleureusement notre ami Yann Permanent, la mémoire musicale de Canal B, qui a gentiment accepté de déplacer son interview en direct de Londres, s'il vous plaît. Pour que Plume et Pinceau puissent enregistrer. Merci Yann.
Merci Yann.
Voilà. Alors, si vous êtes là et s'il va y avoir des rencontres de la BD à Grabuge à Rennes, c'est parce que le 31 janvier, cette année, exceptionnellement, ne se tiendra pas le festival d'Angoulême auquel on a l'habitude d'assister, pour des tas de raisons. Et on voulait avoir un petit peu, du coup on va revenir un petit peu là-dessus, on voulait avoir l'avis de professionnels, puisque vous êtes tous les deux des professionnels de la bande dessinée, hein, c'est votre activité principale, votre métier, votre gagne-pain. Et comment on voulait savoir, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu sur ce festival ?
En fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous n'êtes pas tout à fait des auteurs mainstream, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas des positions tout à fait classiques. Et quel regard vous avez d'abord, vous, sur ce festival d'Angoulême ? Qu'est-ce qui représentait à vos yeux cet énorme festival de la bande dessinée ? Comment vous le perceviez, vous ?
Eh ben, il y a un côté noir et un côté blanc. C'est-à-dire, moi, c'est le premier festival où j'ai été quand j'avais 16 ans, avec les copines, etc. Après, ça fait 25 ans que j'y vais en tant qu'exposante ou autrice dans la section des éditeurs indépendants qui s'appelle Le Nouveau Monde. Il y a à la fois un vivier très intéressant, c'est assez international, donc on peut rencontrer d'autres auteurs étrangers, un public étranger, d'autres éditeurs. Effectivement, il y a aussi, plus le festival grossit, parce que le problème des festivals, c'est que ça a plutôt tendance à grossir, puis au bout d'un moment, ça clash. Ça devient une machine à sous. En plus, il y a les problèmes de sécurité qui fait qu'il faut être fouillé, il y a des queues interminables. Enfin, c'est devenu.
Des problèmes de logement aussi, parce qu'Angoulême, c'est pas Saint-Malo. Le parc hôtelier n'est pas tout à fait la même taille.
C'est un business, quoi.
Ouais.
Donc, il y a un côté vraiment intéressant, place to be, tout ça, mais ce qui est déprimant, c'est qu'il y a un énorme business. Quand on sait que d'un autre côté, les auteurs, ils gagnent rien du tout, en fait, sur ce genre d'événement.
Alors vous, justement, en tant qu'éditrice indépendante, édition de l'œuf, qu'est-ce que vous retiriez, vous, de votre présence à Angoulême ?
Alors, on est obligé d'y être, sinon on n'existe quasiment pas. Un éditeur qui disparaît de là, il n'a pas de visibilité, en fait, parce qu'il y a assez peu de festivals qui ont autant de public. Donc nous, ça fait 25 ans qu'on trime pour avoir petit à petit notre place. On a commencé par avoir un 1m50 tout au fond, et puis petit à petit on a remonté, on a un stand maintenant beaucoup plus cher, mais au moins on est plus près de l'entrée. Et donc
c'est terrible.
Voilà, c'est vraiment toute une bataille, mais ça nous permet ça nous a permis de faire des contacts qui nous ont permis de nous épanouir, et puis on vend quand même pas mal de BD sur un événement comme ça. Donc
en termes financiers, vous y retrouviez ou c'est ric-rac ?
C'est toujours un peu ric-rac, parce qu'effectivement, on fait venir des auteurs des fois de très loin, on est souvent une bande de jeunes, on doit se loger à droite à gauche, on se débrouille avec les moyens du bord, mais ça coûte quand même cher. Et il y a des années où on fait du bénéf, il y a des années où on fait des opérations blanches, de temps en temps on perd un peu de sous. Mais globalement, si on continue à y aller, c'est qu'on a intérêt quand même à y être.
Ouais, parce que en fait, même les radios classiques, les France Inter et tout ça, c'est à ce moment-là qu'ils finalement ils mettent le nez dans la BD, quoi.
Voilà, bon, c'est le phare sur la BD. Ouais.
C'est à ce moment-là, il y a vraiment un coup de projecteur sur la BD qui n'est pas le média le plus mis en avant. Très souvent dans les grandes radios, le cinéma ou la littérature sont plus publicités. C'est d'ailleurs rigolo de voir cette année que France Inter a fait des trucs vachement intéressants finalement sur la BD parce qu'il n'y avait pas Angoulême.
Oui.
C'était même plus intéressant.
Alors autant je trouve que c'est un événement qui faut pas qu'il disparaisse. Autant là qu'il n'ait pas lieu, c'est intéressant. Ouais. Parce que déjà ça met à plat tous les problèmes dont on va en parler après, mais ça permet de de montrer quand la BD est absente, qu'est-ce que ça génère, quoi.
Ouais, ouais.
Donc ça fait, voilà. Puis ça permet de faire d'autres
choses. Ça génère, entre autres, il y aura une grande exposition Rémi Catelin. Tout à fait, il y aura une grande exposition Rémi Catelin dans le Grand
Tu Hop. Sors.
Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller à Angoulême cette année. Et vous, Laurent, en tant qu'auteur, vous, de bande dessinée, alors je rappelle que vous publiez auprès de Comics Initiative, hein, vos aventures, les aventures oui. de votre renard.
Oui, c'est une maison qui est, bon, après Delcourt, Lombard, Mosquito, j'ai un petit peu tâté du classique aussi. C'est pas que j'en suis parti courageusement, c'est que on parlait de gagne-pain, moi je parlerais de ramasse-miettes. parce que tout simplement, j'ai pas tellement eu le choix que d'aller dans l'alternative. C'est moi une démarche courageuse que c'était ça où je quittais le métier parce que je ne vivais clairement plus du tout. Aujourd'hui, j'en suis plutôt bien content parce que je me sens paradoxalement plus libre en étant plus précaire dans une petite structure où on peut imposer des choix et reconstruire une petite cabane à nous plutôt qu'un grand chez les autres, quoi, ou en tout cas pas chez nous. Et d'imposer des règles éthiques de fabriquer en France, de pas être sur Amazon, de pas demander la permission à un éditeur de publier un album, parce que nous, on a une spécificité, c'est de passer uniquement par le vote des lecteurs, c'est-à-dire autrefois la souscription, aujourd'hui le financement participatif, ce qui est la même chose.
Ça a bien marché d'ailleurs, votre dernier financement participatif, vous avez explosé les scores.
Oui, oui, c'est bien, c'est chouette. Ça fait pas, pour être clair, ça fait toujours pas un SMIC pour moi à la fin du mois et en bossant quasiment 7 jours sur 7. Donc faut toujours remettre la mairie au milieu du village en bon laïc.
Alors vous avez d'autres activités au sein de Comics Initiative. Vous retravaillez les couvertures de certains albums, vous retravaillez carrément parfois certains albums qui sont publiés.
Oui,
c'est un côté associatif, en fait, c'est sympa.
Mais je pense que c'est comme...
comme moi, oui.
C'est comme ma voisine. C'est-à-dire que quand on est dans une toute petite boîte, il faut faire de la compta, vider les cartons, faire de la créa. De ce matin, j'ai posté encore un logo que j'ai créé pour la collection manga. C'est pas toujours payé. La plupart des fois, ça ne l'est pas. Parce que c'est aussi de la passion. Moi, je me serais rêvé, vous savez, comme Robbie Robertson dans la série Spider-Man, qui est le bras droit de G.G. Jameson, le radin acariâtre. Ça, c'est mon éditeur. Un éditeur, il a jamais assez de sous. Et puis toi, t'as envie de bien faire. Tu dis, ouais, on pourrait caler ça, on met ça, déplace l'édito, vire Pascal Pro, remet tel visuel, un dessin de presse de Rémi Catelin. Enfin bref, on joue à l'éditeur, en fait.
Rentrez pas dans son jeu, s'il vous plaît. Et puis en plus, moi ce que je trouve intéressant, notamment, je l'ai bien vu chez vous, Laurent, c'est que du coup, il y a aussi une autre relation au lecteur. Il y a une proximité. Enfin, moi, j'ai déjà été. Je me souviens d'une rencontre qui était organisée. Alors, c'est pas parce que c'était une brasserie que j'étais venu. Hein, c'était pour le plaisir de vous voir, bien sûr, Monsieur Laurent Lefebvre. Mais il y avait vraiment une fanbase, quoi. Il y a des gens avec qui vous échangez, vous parlez de votre œuvre. Il y a une interconnexion avec le public qui est vachement plus forte aussi. Je pense aussi de passer un peu sur les marges.
Oui, avec tous les gens du métier aussi, pas qu'avec le public, avec les libraires, les imprimeurs. Les diffuseurs, tout ça.
Mais ça rejoint une description d'Angoulême, parce qu'on est parti d'Angoulême. Angoulême se caractérise, pour ceux qui n'y sont jamais allés, par deux lieux distincts et séparés géographiquement de quelques centaines de mètres. Il y a le monde des bulles, où vous allez voir tout ce qui est bande dessinée classique. Votre tonton qui a une armoire pleine de beaux albums franco-belges, d'Argo, Dupuis, Glénat, Delcourt, etc., qui va faire la queue pour son Black Sad ou son Largo Winch. Je caricature, mais à peine. De l'autre côté, là, on va retrouver l'œuf et des petites structures comme la mienne, et des dizaines, si ce n'est pas centaines, d'autres éditeurs, là où il y a un fourmillement de vie, des livres de toutes les formes, des laboratoires, de recherche graphique, ça s'appelle Nouveau Monde, autrefois ça s'appelait New York. Et ce grand serpent de quelques centaines de mètres, qui sont de barnum gigantesques où la foule piétine un peu et se colle sur les tables pour rencontrer, découvrir. Vous allez voir Cornelius, Atrabi, Stenkis. Je parlais de Mosquito tout à l'heure, des tonnes et des tonnes, du fanzine aussi, beaucoup de fanzine. Là où dans l'autre, on a quand même un autre public. Qui vient plus cocher des cases en disant celui-là je le veux le dernier, un tel ou telle série. On peut aller aux deux, c'est génial d'aller aux deux, on a rarement le temps de faire les deux. Et on voit toujours ces gens qui disent « Ah, je serais bien allé voir les alternatifs, mais j'ai pas eu le temps parce que j'avais une wish list, une liste de courses. » Ou à l'inverse, des gens peut-être plus exigeants, plus snob, diront les autres, ou plus bobos. Ça dépend de quel côté on est, c'est un regard. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
il y a les indés d'un côté, et de l'autre, il y a les enfoirés, Florent Pagny.
Ils ont vendu leur âme.
Caricature à peine.
Ouais.
Et vous, vous en tiriez quoi, alors, vous, du Festival Angoulême? Vous y alliez régulièrement, vous, Laurent?
Alors moi, c'est tous les ans. Il y a eu d'abord, comme Mandra, le côté j'ai gagné un concours BD à la foire de Villejean de la BD qui a eu lieu il y a 30 ans. Avec Nicobi, on est second ex aequo. Ma maman nous pose dans le bus côte à côte en disant tiens, tu vas te mettre à côté de lui, tu vas parler avec lui. Authentique.
Hein. Il vous pinçait déjà?
Eh bah, ben, déjà. Il m'a remis à Mandrika, le retour du refoulé. Je lui ai montré un Bernie Wrightson. En descendant, on était copains. On a dormi sur des tatamis d'une maison de quartier. Donc, c'est vraiment le côté, comme tu décris, le clic-clac chez des copains. Et puis, il y a eu une dizaine d'années où j'y allais pas en disant, bon, Angoulême, c'est avant tout une grosse foire. Donc, le côté, bon, voilà, ça me semblait compliqué. Puis, j'y avais pas ma place aussi. Et puis, j'y suis revenu sporadiquement pendant quelques années. Et maintenant, depuis que je fais partie de Comics Initiative, c'est tous les ans. On loue une espèce de grosse maison charentaine au milieu de la Charente, au milieu des vignes, et on doit loger une quinzaine d'auteurs, d'autrices, des fois qui viennent des États-Unis d'ailleurs, et pendant 3-4 jours, c'est une colonie de vacances, on est épuisé. L'investissement pour mon éditeur, concrètement, c'est 10 000 euros pour 4 jours.
Ah ouais. Stand, le logement.
Alors, stand, ça doit être dans les 6 000 euros pour peu près 2-3 mètres de long, je dirais 3-4 mètres de long peut-être.
Ah, c'est pas beaucoup.
Ouais, c'est gigantesque.
Si.
Ah, c'est gigantesque. 6 000 euros pour un stand.
Non, c'est cher, mais 3-4 mètres de long, c'est pas très long.
Ah, bah non, c'est pas long.
Ouais, c'est ça.
Et puis, il y a une opacité, parce que quand on parle avec d'autres, c'est quoi, tu payes ça pour ça? Enfin, il y a un côté Airbnb complètement dingo. Les locations Airbnb, justement, ils se gavent monstrueusement, parce qu'on est à un endroit où les places sont chères. Les locations de camions, on mange des salades debout, parce qu'on va pas au resto. Voilà, il y a 10 000 euros, en gros, à rembourser. On y arrive rarement, très rarement, parce que c'est pas en vendant une BD qui elle-même a eu un coût. Quand on vend un album 22-25 euros, il tombe pas du ciel. Ce livre, il a fallu le payer, l'amener. Donc autant dire qu'on est là, un, pour la fête, deux, pour s'épuiser. Dans festival, il y a fête. C'est normal, en revenant d'un festival, qu'on soit crevé. Mais on y gagne quasiment rien. On peut être défrayé par une petite somme. Et c'est assez récent que les auteurs soient un peu rémunérés. J'appelle pas ça un salaire à ce stade-là, mais symboliquement c'est bien. Et on est content. Moi, je suis content d'y aller. Même quand j'ai pas des nouveautés, c'est vous dire, j'y vais quand même parce que je participe à l'effort d'aider mon éditeur à rembourser son stand et puis à être là, quoi. Donc tant que je peux, que j'ai encore un peu la patate pour y aller, on y va évidemment. C'est une fête. On part le mercredi de Rennes, on rentre souvent le lundi avec des valises sous les yeux et la voiture en mode automatique.
Vos conjoints ne vous reconnaissent pas?
Je fais le test des fois, j'ai changé avec Thierry Martin, il est rentré à Rennes et moi à Nancy.
Est-ce que vous rentrez vraiment à la bonne maison?
Mon compagnon appelle ça Angst Goulême, comme en allemand Angst.
Ah oui.
Parce qu'effectivement ça génère pendant un mois avant il y a du stress et pendant deux semaines après il y a de la fatigue et puis il y a la crève, toujours, on chope toujours une crève à Angoulême. Voilà.
En plus c'est vrai que c'est au mois fin janvier, c'est pas la période où j'ai vu de la neige.
Il faut savoir que c'est le week-end le plus sinistre de l'année, on est un mois après le nouvel an, on peut plus, on est dans une espèce de colline ravitaillée par les corbeaux avec des vents, c'est glacial, et on est pendant 4 jours assis avec des gens qui nous parlent debout, donc il faut une gentille douche de particules de tous les variants Covid et autres imaginables, donc c'est très rare qu'on revienne pas avec une grippe parce que la fatigue fait que, donc ouais, alors c'est quand même chouette, on va quand même le dire, Angoulême il y a des expos incroyables, c'est une émulation, on rencontre des gens, c'est un peu comme votre famille, vous savez, il y a le petit cousin hyper sympa et puis il y a le tonton Rasselard, et donc tout ça c'est la famille mine de rien. Et on se voit de temps en temps, c'est juste que par affinité, par manque de temps, on choisit à côté de qui on va se mettre à table, forcément.
Et il y a aussi, pardon.
Non, je disais aussi, c'est y a une programmation officielle, mais aussi, bon, il y a Angoulême, il y a tout Angoulême qui en vit, parce qu'il y a l'école de bande dessinée, il y a les écoles d'art visuel, il y a le musée. Donc, il y a aussi des gens qui ouvrent leur maison pour exposer des choses chez eux. Donc en fait, c'est toute la ville, c'est pas que la programmation officielle, il y a un off, il y a même plusieurs off, il y a le off du off, il y a chacun qui fait sa petite expo liée à la BD pour participer au truc.
Un peu comme Avignon pour le théâtre, quelque
oui,
part.
Voilà,
mais
c'est
en
ça.
Moins chaud.
Donc en fait, il y a 10 000 façons de faire le festival, quoi. Soit on peut effectivement aller dans les bulles, mais on peut aussi pas du tout aller voir les stands, mais juste voir des expos un peu partout, des interviews d'auteurs, des rencontres, il y a plein. Mm-hmm.
On s'écoute un petit Dix et puis après, on va revenir encore une dernière fois sur Angoulême, parce que j'aimerais bien quand même que vous nous expliquiez votre vision des choses sur ce qui s'est passé.
L'événementiel, ouais. L'officiel s'est cassé la gueule, parce que c'est l'officiel qui s'est cassé la gueule, c'est pas du tout le off initial. Programmation à Roger, The Green Horns. Tu m'étonnes qu'il n'étende plus rien, le Roger.
Trois accords, 2 minutes 30, tout ça suffit bien pour exprimer ce que l'on a à dire. Alors, la question qu'on avait envie de vous poser, mon ami Monsieur Plume et moi-même, Monsieur Pinceau, à savoir, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, tous les deux, en tant que professionnels, de cette histoire? Comment vous avez compris les choses, ce qui s'est passé?
Est-ce que ça vous a surpris que ça, d'un seul coup, le château de cartes s'écroule aussi brutalement?
Alors, moi, ça fait 15 ans que j'entends dire que le festival, ça va se casser la gueule. Donc, il y avait vraiment des problèmes au niveau de la structure entre l'association organisatrice et la structure qui s'occupe de l'événementiel. Et il y avait des histoires de pouvoir, effectivement. Une présidente qui a carrément déposé le nom du festival pour en devenir maîtresse. Et puis, en combinaison avec 9e Art Plus, donc la structure qui organise l'événement, ils voulaient se récupérer le festival à eux, quoi. Et y avait aussi des problèmes de business qui rendaient le festival un peu plus une grosse machine. Donc ça n'a pas été si étonnant. En tout cas, ce qui a été quand même surprenant, cette histoire de viol qui a déclenché tout. Une ancienne employée de 9e Art Plus, donc, qui organisait le festival, et qui, elles, grâce aussi à la journaliste Lucie Servin de l'Humanité, ont fait remonter ce scandale que les organisateurs avaient complètement essayé d'étouffer, vraiment, qui ont continué à essayer d'étouffer alors que le truc était sorti. C'est là qu'ils ont été vraiment complètement minables au niveau communication.
Ouais, parce qu'ils l'ont viré carrément.
En plus, ils l'ont viré, voilà. Donc elle était au prud'homme déjà, et avec en plus cette histoire de viol. Donc par les temps qui courent, ça passe plus du tout, des choses comme ça. Donc d'un côté, c'était pas complètement étonnant, mais c'est juste que ça s'est passé très vite. Voilà.
Ça a été cette histoire de viol, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase bien plein déjà.
Oui, voilà, c'est ça. Il y avait déjà des problèmes. Mais ça, c'est comme beaucoup de festivals qui deviennent gros. Il y a un moment où il y a des intérêts, des égos, et ça ne sent plus très bon. Et il y a un moment où il faut faire du nettoyage. Et voilà, il y a une allumette qui a démarré le feu.
Alors, cette allumette, moi, je suis tenté de dire que cette allumette, c'est Anouk Ricard qui va l'allumer. Quelque part, en refusant l'expo qui devait lui être dédiée, et en disant, bah non, moi, je ne peux pas retourner à Angoulême tant que rien ne sera changé. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Alors, d'un point de vue médiatique extérieur, je dirais oui. C'est ça qui a fait parler beaucoup dans les journaux. Après, en interne, dès l'annonce de cette histoire de viol, il y a eu plein de professionnels. Nous, par exemple, les éditeurs indépendants, moi je fais partie d'un syndicat de 50 éditeurs indépendants, on en avait déjà parlé avec nous du boycott bien avant l'automne. Au début de l'été, c'était déjà dans nos discussions et dans nos débats. On boycotte. Donc il y a eu une traînée de poudre en fait, un petit peu dans tous les milieux. Mais c'est au moment effectivement où Anouk Ricard a refusé le prix que là, ça a pris une dimension.
Les oppositions les contestations se sont fédérées en fait autour de ça.
Et puis ça a donné une image parce que qu'est-ce qu'on s'en fout que les éditeurs indépendants boycottent Angoulême en fait.
Ouais.
Voilà. Après c'est sûr que pour moi là où vraiment ça a basculé, c'est quand les gros éditeurs ont décidé qu'ils mettraient plus leur bille parce que là économiquement quand il y a plus de partenaires qui ont vraiment alors, un poids.
Il y a eu ce qu'on a appelé alors un espèce de nouveau terme qui s'est développé mais comment populariser. C'est le terme de Girls Code. Est-ce que effectivement les autrices, ont joué un rôle moteur dans l'opposition à l'organisation du festival d'Angoulême?
Je dirais que les autrices, oui, ont suivi. De fait. Parce que solidarité avec une femme qui a vécu des violences sexistes et sexuelles, solidarité donc avec la journaliste donc qui a fait sortir ça dans l'Humanité, il y a eu effectivement un soutien féminin qui a permis de faire ressortir un peu MeToo BT, enfin toutes ces associations d'autrices qui s'étaient déjà fédérées pour d'autres histoires et qui sont toujours là en fait. Et donc voilà, c'est le travail et l'évolution en fait de la place des autrices qui a.
Oui, parce que ça fait un moment qu'Angoulême est travaillé par cette. Enfin, et du moins critiqué par cette question-là. Et justement, il y a une espèce de pesanteur et une lenteur à s'adapter justement dans le rapport à l'autrice et à l'auteur féminin, enfin, qui trimballe depuis longtemps.
Moi, j'ai une lecture complémentaire de tout ça. Je crois que c'est en 2016. Il y a une sélection d'une trentaine d'albums. Comme
je me souviens de ça.
Riyad Satouf, qui fait partie de la sélection avec l'Arabe du Futur, j'imagine, un des tomes, demande à être retiré de la sélection. Parce qu'il y a une trentaine de livres. Et il y a, je crois, zéro autrice.
Je me souviens de ça, oui.
Point de départ. On pourra quand même signaler que tout du long, chaque fois qu'il y a une décision à prendre, le festival prend systématiquement la pire possible. Que ce soit sur une expo Bastien Vivès ou n'importe quoi. Donc déjà, tout le reste, vous allez garder ça à l'esprit. Et chaque fois qu'il y a une réaction, c'est systématiquement le mauvais signal. Ils ont construit eux-mêmes et creusé une tombe où légitimement... Et le plus tôt le mieux, ils devaient tomber dedans. Et la terre les recouvrir. Vraiment, j'en suis là.
Donc quand il a refusé ça,
très subtilement, très classe en fait. Hein, on pourrait dire une fois de plus qu'une révolution est partie de Bretagne. On va se le prendre quand même celui-là.
Vous tirez par le Quignaman.
Par les poils du Cancale.
Ouais. Mais la réalité, Roger.
Il a été trois fois en vacances à Erquy.
Et il a une maison à Saint-Malo.
Ah oui, mais ça c'est parce qu'il a gagné.
Et il fait notre affiche qui est sur les murs de Rennes actuellement. Bref. Et donc, en tout cas, ça a été le point de départ. Je dis, tiens, mais c'est vrai ça. Que dit le FIBD ? Mince, c'est vrai, on ne s'était pas rendu compte. Non, ils disent, il se trouve que, un peu comme Sarkozy à propos de, vous savez, des Noirs dans l'histoire et de l'Afrique, ils ne sont apparus que récemment dans l'histoire.
Ils ne sont jamais rentrés dans
l'histoire. Ils ne sont pas assez mûrs pour être vraiment rentrés. C'est ce qu'a répondu le FIBD à propos de la place des femmes. On a envie de dire, il n'y a pas que Bretéché, Florence Sestac, Chantal Montelier, toutes les nanas de Anana des années 70, il y en a plein, et sur tous les continents d'ailleurs. Et donc, voilà un peu ce qui a commencé. Il y a eu aussi le problème de l'élection des présidents qui, jusque-là, faisait que tous les anciens nommés se réunissaient depuis un balcon de la mairie et annonçaient, un petit peu comme la famille royale d'Angleterre,
montrant
un nouveau-né, qui allait gagner. On a décidé à ce moment-là, et c'est à peu près au moment, que c'était les auteurs, tous ceux qui étaient enregistrés comme autrices et auteurs, qui allaient voter. D'un seul coup, surprise, on a moins de bandes dessinées à papa très classiques. Elle est très bien, c'est pas la question, on ne les oppose pas. Mais quand on a des Alison Bechtel, Julie Doucet, Anouk Ricard et plein de gens qui disent « qu'est-ce que ça, c'est mal dessiné, mon fils en fait autant », vous voyez, tout ce genre de trucs qui contribuent avec ce phénomène de réseaux sociaux. On est dans tout ce contexte-là qui fait que ça monte lentement. Le festival s'est très mal comporté avec Anouk Ricard au moment où elle a été élue. Et puis les choses ne s'amélioreront pas parce qu'il y a des appels d'offres pour renouveler à tel organisme la prise en charge d'un festival qu'ils n'ont pas créé. Rappelons que c'est une association au milieu d'années 70, dans la mairie, qui a créé à partir de rien une bande de copains qui aimaient la BD. Le truc a grandi quand il y a eu un budget, de l'argent, de l'intérêt, Jacqueline et Mitterrand qui défilent dans les allées des travées de Angoulême. C'est avec tout ce contexte-là, très long, très souterrain, qu'on arrive à ce girl code, à ces petits éditeurs. Nous, c'est le cas. La remise des dossiers était en septembre. On n'a pas pris de stand cette année. On avait loué un pas de porte dans la ville, pour tout dire. Ensuite, il y a l'ensemble des alternatives qui ne veut plus y aller. Ensuite, il y a les gros éditeurs qui se disent on ne peut pas y aller parce que tous ces petits là mis ensemble, c'est bien la moitié, voire les deux tiers, ou peut-être même les trois quarts de l'intérêt. Et ce sont de telles sommes pour eux de venir là-bas que je les soupçonne d'avoir absolument rien à fiche des enjeux éthiques, philosophiques, mais juste de se dire c'est absolument plus rentable et on va juste avoir l'air complètement con dans l'histoire si nous on y va parce qu'on va valider quelque chose qui va nous desservir. Et c'est là où les grands journaux en parlent, Libé, Le Monde, et c'est là où tout le monde a l'impression que, regardez, Delcourt, Glénat, tous les autres, Casterman font quelque chose de bien alors qu'ils rattrapent le train quand il a déjà largement sorti de la gare.
Ah oui, ils ont décidé de ne pas venir, ça devait être au mois d'octobre, quoi.
Ouais. Oui, c'est ça.
Ouais. Ah, et Delphine. Voire novembre, peut-être même, après qu'il y ait débuté.
Voilà, c'était vraiment tardif.
Novembre. Donc, je pense que c'est au moment du festival de Blois, dans mi-novembre, où je pense que c'était officiel. Ouais. C'est dire si le courage des... Vous savez, c'est comme les Jean Moulin qu'on a vu après le 15 janvier.
De la 25e heure.
Ceux qui rasaient les filles.
Ouais.
Ça, la libération.
Les résistants de juin 46, voilà. Comme
alors,
disait
et Delphine
ma belle-mère.
Delphine Gou, la présidente de l'association, sa seule compétence en bande dessinée, c'est d'avoir souillé ses couches au bon endroit, parce que c'est la fille d'un des fondateurs de l'association. Et c'est comme ça qu'elle a repris, qu'on lui l'a donné, quoi, quelque part, le festival. Et puis, elle a pu lâcher, quoi. Ouais, c'est une fille de Delphine. Alors, est-ce qu'on a fait le tour, mon bon Erwan ? Est-ce qu'on a répondu à vos interrogations ?
Du coup, oui, on a répondu à nos interrogations, pas qu'aux miennes. Du coup, ouais, je vous propose un nouvel interlude musical et puis on va rentrer. Espace qui est disponible. Et
le off.
Voilà. Je ne parle pas du grand off d'Angoulême où il y aura l'exposition Rémi Cattelin.
Non, bien sûr, c'est pas votre genre.
Reine.
Du Rémi Cattelin maintenant.
Father's
Tu m'étonnes qu'ils soient sourds, les gars de là. Alors, voilà, si nos invités sont prêts,
voilà, ils sont toujours.
Ils bavardent, ils sont distraits.
Bah, voilà. Mais c'est parce que, vous savez, ils bossent chacun de leur côté sur leur austère planche à dessin. Alors, pour une fois qu'ils
c'est comme un mini festival ici.
On voit des gens.
Ah bon, il y a des gens dehors. Alors, la nature ayant horreur du vide, exactement, comme vous le savez, eh bien, il n'y aura pas le festival d'Angoulême. Il y aura le festival off du off qui se tiendra, etc. Mais aussi, à travers pas mal de villes en France, se tiendront nombre de manifestations en rapport avec la bande dessinée. Nous nous inquiétons avec Monsieur Plume de y aura-t-il quelque chose à Rennes ? On était tout déçus et vous avez répondu à notre inquiétude puisque effectivement, si vous n'irez pas, alors vous n'irez pas à Angoulême, mais vous serez à Rennes pour fêter la bande dessinée le samedi 31 janvier à Grabuge, 24 avenue Jules Magnier, métro Courrouze, de 16h à 21h, stand BD, fanzine, forum, rencontre, jeu de dessin, atelier BD, impro, musique, dessin et sûrement buvette, parce que je m'en suis inquiété, parce que j'ai annulé une de mes sorties pêche à la palourde pour venir vous voir. Il y a intérêt à ce qu'il y ait une buvette.
Vous dites que vous ne faites pas le dry January, donc.
Le quoi, c'est une invention de
diabolique.
Trump, ça. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Et qui est à l'origine de cette manifestation, on va dire ?
Alors, bah c'est moi, parce que je savais qu'il y avait un appel national à faire des choses pendant ce week-end-là. Donc on a appris à peu près le 1er décembre que c'était sûr qu'il n'y aurait pas de festival. Et donc voilà, il a fallu quelques jours pour décider, bon, bah, est-ce qu'on fait quand même quelque chose ? Et donc on a discuté avec Presque Lune à ce moment-là pour savoir si on ferait pas un truc, quoi. Voilà, et puis moi j'ai envoyé des mails à des copains et puis j'ai demandé à Grabuge, chez qui j'étais passé peu de temps avant, faire un concert. Mais en fait,
par associatif, c'est ça, la Courrouze,
ouais, voilà.
Restaurant.
C'est un bar, restaurant.
C'est une cantine concert. Aussi. C'est tout voilà. Près de l'Antipode. Si
oui, c'est vraiment à côté de l'Antipode.
400 mètres de l'arrêt métro de la Courrouze.
Ouais, c'est très sympa comme
sur
lieu.
Une carte avant. Ils sont très sympas. Je les ai appelés justement. C'est très chouette qu'ils nous accueillent au pied levé, quoi.
Oui, voilà, ils sont très créatifs, Grabuge, il y a plein de choses qui s'y passent. Et donc, voilà, ça se fait un peu spontanément. L'idée, c'est de coordonner un peu les gens de la BD qui sont présents sur Rennes. Alors, il y a beaucoup de gens de la petite édition, du Fanzina, des associations qui font de la BD. Je peux dire un petit peu qu'il va y avoir une partie stand, exposition de 16h à 19h. Donc, on retrouvera l'œuvre Presque Lune, la revue La Vilaine, bien sûr, les fanzines, la bande Abulos, Broc qui vient de Saint-Brieuc, le fanzine de Saint-Brieuc. Après, il y a des auteurs du coin, Maracabar, Marie Kéredouen, San Falafel, B, Vincent Normand, Sébastien Lumineau. Ronald Grandpet, Ophée Pi, Lionel Chouin qui lui fera le présentateur du forum. Donc il y aura un forum où.
Monsieur Loyal.
Voilà, où on parlera de BD et d'auteurs.
Il va avoir une sortie d'ailleurs, Monsieur Chouin, le 1er février.
Voilà, ce sera l'occasion. Alors on ne pourra pas forcément acheter tous les albums parce qu'il y a des albums qui passent que par des libraires. Mais par contre, on pourra voir ce que font tous les gens. Y compris ceux qui ne peuvent pas vendre leur album directement, parce que c'est ça, quand on est un auteur connu, faut passer par un libraire. Par contre, quand on a une petite structure, on peut vendre directement. Donc voilà,
il n'y a pas de libraire de Rennes associé
On l'a pas fait. Voilà.
D'accord.
Parce qu'au départ, on était parti sur un tout petit événement, un peu notre bande de copains, quoi. Bon, finalement, il y a eu beaucoup d'enthousiasme et pas mal d'auteurs qui nous ont rejoints. Et l'idée, donc, c'est qu'il n'y ait pas que des stands pour voir ou acheter des trucs, mais qu'il y ait aussi des choses interactives. Donc, il y aura un atelier BD où potentiellement on peut aussi amener ses enfants, mais on peut aussi dessiner adulte. Il y aura une animation Croquirama, donc ça, c'est lancé par Vincent Normand. Donc, l'idée, c'est de se faire dessiner sa tronche.
Normand, Fond Perdu, c'est ça, ce qu'on a reçu, qui chantait très très fort, qui ont fait peur à mon chien.
C'est ça qu'on aura dû passer en musique.
On va le passer par jour. Il y aura des impros, je finis juste la liste. Il y aura des impros, dessins en direct avec des musiciens. Il y aura une petite bibliothèque éphémère où on pourra voir des fanzines et des BD d'un peu tout le monde, de différentes époques, pas que des trucs récents. Et une fresque collective où tout le monde pourra dessiner, y compris les gens qui passent.
Alors, est-ce que c'est dans le cadre, parce que j'en ai parlé un petit peu, j'ai vu des articles là-dessus, est-ce que ce sera dans le cadre de ce festival de la BD interconnectée qui se tiendra un peu partout en France, dans différentes villes, Strasbourg, Paris, Lyon, Bordeaux, je crois? Est-ce que c'est dans ce cadre-là ou encore off de
Alors nous, on est off du off, nous, on est déconnectés. Okay. Voilà, en vrai, pour la petite histoire, il y a eu un appel national, oui, par les Girl Scouts, mais où il fallait respecter une charte. Donc moi, j'étais sur le site, j'ai contacté Girl Scouts. A priori, la charte était facile à respecter, il fallait juste... pas de sexisme, etc. Voilà. Mmh. Et sauf qu'on a eu un problème avec la dénomination Nogoulême, parce qu'il y a eu une affiche où il y avait marqué Nogoulême, et elles ont pas aimé. Donc elles nous ont demandé de retirer cette affiche. Et donc moi je dis que bah non. Et c'était l'affiche au mec à côté là.
C'était l'affiche de Laurent.
Le pire, c'est que j'ai modifié le nom. En fait, j'ai enlevé le Nogoulême parce que le Charentais est certes accueillant et fait du bon cognac, mais il n'a pas toujours l'esprit d'autodérision. Et dans le Nogoulême, qui avait pour principal avantage de tenir en trois syllabes, quand on n'est pas de Charente, quand on dit Angoulême, moi, les gens avec qui je promène mon chien dans le parc à côté de chez moi, ils me disent bah alors, il n'y a pas Angoulême. Donc Angoulême égale festival BD, tout comme Cannes égale festival cinéma, Hollywood et Calisson, et bref, vous avez compris l'idée. Quand je mets Nogoulême, je fais mon affiche dans mon coin, c'est bénévole, personne ne me demande rien, y compris à Rennes, je le fais parce que ça m'amuse, j'aime faire de l'affiche, Mandragore a fait la sienne, et loin de moi l'idée de penser d'avoir un pouvoir prescripteur tel qu'en écrivant Nogoulême, les gens se disent oh, Michel, change les plans, on va rester là, on ne verra pas ce week-end à Angoulême. Imaginez bien que j'utiliserais ce pouvoir pour aller à la fenêtre et dire aux gens d'acheter mes albums ou d'arrêter de voter comme des cons, mais pas de pas aller à Angoulême. Donc bref, moi, puisque je vois qu'il y a beaucoup d'incompréhension et que le but étant quand même de faire une fête,
tout à fait.
J'ai quand même pris sur moi de changer le nom, autocensure.
Mmh. Oui, moi j'avais dit au Girl Scout que bah non, je voulais pas te demander.
Mais bon, moi
il
y avait une volonté d'apaisement parce que je me disais le but c'est quand même pas de commencer à créer des malentendus sur rien et que ma foi écrire Rencontre BD à Rennes marchait aussi bien que Nogoulême, pourquoi pas, puis ça avait l'avantage de me faire enlever ce vilain fait interconnecté de la BD 10 syllabes, tandis que Angoulême, oui, qu'est des bulles, Nogoulême c'est 3 syllabes.
Interconnecté, c'est pas terrible.
Oui, puis alors c'est très bien qu'on soit connecté, mais horizontal. Mais quand c'est connecté avec une pointe du chapiteau qui s'est placée telle une capitale parisienne auto-placée par Angoulême, ça devient un petit peu un is no good qui devient calife à la place du calife.
Un comité de la paix dirigé par Trump.
Le jacobinisme de la BD.
Le jacobinisme de la BD. J'essaie de leur expliquer qu'on aimait bien, on est d'accord avec l'esprit et on signe des deux mains, et pourtant je suis gaucher, sur les chartes éthiques, philosophiques, de toutes les thématiques qu'on va quand même traité. Moi, je leur ai dit, gardez votre mot girl code. Nous, on va garder l'esprit du truc, parce qu'il nous va très bien, en vrai, mais on va l'appliquer. Et donc, voilà, on a gardé notre petite affiche.
C'est vrai que moi, enfin, vous m'apprenez quelque chose, parce que je pensais vraiment que du coup, qu'il y avait une espèce de, justement, de contre-jacobinisme, et vraiment, allez-y, emparez-vous, il y a un espace, créez
vos trucs,
faites vivre la BD,
aussi,
quoi.
On a choisi de le prendre comme ça. Et on le garde comme ça.
Enfin, voilà, en tout cas, il y a effectivement aussi un off à Angoulême qui se fait, mais qui s'est fait assez tardivement, hein, puisque nous, on a décidé même avant que le off d'Angoulême
se montre,
de faire un truc, voilà. Donc, il y a des trucs un peu partout en France, mais bon, voilà, nous, on n'est pas forcément...
En plus, je veux dire, intuitivement, les gens savent qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi. Ils réagissent à des défauts qu'on a vus dans le Angoulême officiel, ils n'allaient pas reproduire le truc, enfin, localement.
Il y a un peu de ça, ouais.
Il y a un manque de confiance, quand même. Mmh. On doit faire une charte. Moi, je trouve ça...
C'est
mon côté peut-être libertaire ou libertaire.
Oui, mais en vrai, c'est vraiment une mini-tempête. Ouais, dans un dé à coudre d'eau, vraiment. On n'a pas dit, mais notre petit festival à nous, il est gratuit. Qu'il n'y ait pas de libraire, perso, pour une fois, je trouve ça pas mal. Chacun amène ce qu'il a.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup de concurrence de libraires. Vous en auriez pris un, les autres auraient fait la gueule.
Oui, c'est un micro. Et puis c'est quelques heures. Je rappelle, c'est de 16h à 21h. Ouais. C'est un après-midi. C'est gratos. Important. Donc l'idée de ne pas mettre l'argent au centre du truc.
Oui,
on vient sur notre plaisir. Ça va se terminer en apéro géant, ce truc-là.
Ouais.
Mais un apéro où on dessine.
Oh.
Moi, où on se fait dessiner.
Et j'ai envie de dire, au bon vouloir des auteurs, évidemment. Voilà. Mais si vous avez des albums chez vous de gens qui sont là, on n'a pas cité M. Laurent Houssin qui a sorti Certao chez Futuropolis
qui
nous
revient d'un grand voyage au Brésil.
Il va nous en parler.
Par contre, il a eu un problème. C'est qu'ils lui ont tout réduit la tête. Il a une toute petite tête. J'ai hâte de voir ça.
Mais comme quoi, c'est marrant
janvier.
Parce que le même monsieur Houssin, une des dernières fois que je l'ai vu, c'est le Quai des Bulles 2024 où il avait fait une expo croisée de Anouk Ricard et Bernadette Després de Tom Tom et Nana. Donc chez nous, Anouk Ricard, elle vient. Donc c'est quand même bien Angoulême et cette région qui pose problème, finalement.
Alors vous parlez.
Voilà comment être Tricard.
Vous parlez, vous aussi, de, comment dirais-je, un petit peu de consanguinité, c'est ça ?
À quel niveau ?
À propos d'Angoulême.
Non, mais en fait, vraiment, c'est l'effet grossissant de, pour moi, des réseaux sociaux. C'est pas parce qu'il y a 4 personnes qui ont réagi, qui enflent. La plupart des gens ont trouvé l'affiche vraiment. Moi, je vais vous dire, ça fait 5 ans que je suis sur Instagram. C'est cette affiche qui a eu le plus de réactions depuis que je suis sur Instagram.
C'est quand même dingo.
Donc, 99% des gens, ils ont dit oh, c'est cool, oh, sympa, oh, c'est fun, oh, elle est sympa l'affiche. J'aime pas tous mes dessins, celui-là, je l'aime bien. Donc voilà, moi, je vais retenir ça. Le reste, c'est du détail.
Ce que
vraiment.
Je retiens, moi, sur. Votre affiche qui m'intéresse, c'est qu'il y a, c'est marqué numéro 1. Or, la ville de Rennes, depuis périscopage, n'est plus particulièrement impactée. Il n'y a pas de gros événements de BD. Il y a la revue La Vilaine qui essaye d'animer un petit peu. La Vilaine Revue qui essaye de faire des choses autour du thème de la BD. Vous aussi, l'œuf, vous essayez de faire des choses à droite à gauche. Mais Rennes n'est pas une terre de festival. Est-ce à dire que désormais, on aura notre petit festival de BD différent fin janvier tous les ans.
Alors déjà ça va être difficile si Angoulême qui revient. Mais...
Ah bah oui.
Mais en fait on s'est posé la question parce que Laurent m'a dit est-ce que bien l'affiche il faut corriger des trucs. J'ai dit bah il y a numéro 1 normalement c'est un événement qui est
ponctuel.
Exceptionnel puisque mais finalement on verra bien.
Oui. Et pourquoi le garder à la même date ? L'idée, oui, c'est voilà. Qu'on s'en fiche, puisque nous sommes officiellement déconnectés, pas seulement de la réalité, mais aussi d'Angoulême. Et puis, moi, je viens du comics, donc n'importe quel truc qu'on met numéro 1 dessus, on sait qu'une partie du lecteur va le prendre, le mettre sous plastique, en se disant que peut-être plus tard, il pourra payer de l'essence pour mettre dans son 4x4.
Ouais. Et il y aura peut-être un numéro 2, numéro 3. Et est-ce que plus généralement...
Mais est-ce que la mairie s'est intéressée au truc ?
Bah moi, j'ai contacté la responsable culture de la ville de Rennes. Ouais. Oui, qui était très enthousiaste. Alors, ils n'ont pas pu nous aider financièrement.
Mais super, mais on
mais...
peut pas
répondre. Par contre, ils nous ont aidés. Bah, déjà parce qu'elle était enthousiaste. Et puis, parce que ça fait toujours plaisir quand les gens sont enthousiastes. M'a donné un certain nombre de contacts. M'a permis de dire, bon, nous, on avait besoin d'un piano numérique pour le musicien. Bah, il nous est prêté par l'Antipode. Voilà, ça... En fait, il y a des moyens d'aider sans passer par l'argent et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà.
C'est quoi un piano numérique ? Excusez-moi.
Un piano électrique, quoi. Enfin, il y en a qui disent numérique, je ne sais pas la différence. C'est un piano qui n'est pas un piano...
Je croyais que c'était en liaison avec le dessin. Je me dis, waouh,
non.
Un piano qui fait des dessins, c'est votre mort.
Oui, on compose des symphonies, mais la fée électricité a fait beaucoup de bien. La musique, pensez à Claude François.
Alors, est-ce qu'on peut se demander s'il n'y aura pas est-ce que le festival d'Angoulême n'est pas appelé à renaître sous une autre forme ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il renaisse ? On va remplacer 9e art plus par une autre structure, mais si l'autre structure, la nouvelle structure fait du 9e art plus et qu'elle s'appelle autrement, rien ne changera en fait.
C'est ce qu'on espère qu'il y a un cahier des charges qui a été un peu, il y a qui a été créé quoi, des doléances qui sont remontées d'un petit peu toute la profession. Donc on espère que la prochaine structure, alors il y a des chances que ce soit la cité de la BD, mais on est pour l'instant, on est sûr de rien. Mais on a un peu peur aussi parce qu'effectivement, il y a des prestataires qui sont juste des pros et qui sont pas.
Oui, c'est ça, et qui vont vous vendre du Raja. Raja,
qui peuvent nous vendre plus de mangas ou de machin ou de fêtes. Enfin, qui peuvent effectivement aller dans le mauvais sens. On, voilà, après toute révolution. On sait qu'il peut y avoir le meilleur ou le pire.
Et la révolution mange ses enfants, ne l'oubliez pas.
Laurent, une révolution est un tour complet sur soi-même, pour revenir au point de départ. Mais je pense qu'on ne pourra pas faire pire, honnêtement. C'était tellement une enfilade de certes, il y a un site de vente de droits internationaux, il y a beaucoup de choses qui font que c'est un acteur. J'ai le plaisir d'être invité en Pologne le mois dernier pour Quai des Bulles, rencontrer la scène polonaise. Et ben, j'ai été très surpris de me rendre compte à quel point, parce qu'il y avait des Italiens, des Allemands dans les délégations invitées. Et ils étaient tous, mais qu'est-ce qui se passe ? Déjà, ils admiraient. Ils disaient, il n'y a que vous, les Français, pour foutre par terre la Bastille, d'un truc aussi important qui est votre propre gagne-pain. Bon, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on gagne peut-être si mal notre vie que même notre ministre de la Culture, qu'elle soit là ou chez Dior, je veux dire, ça change tellement rien qu'on n'a rien à perdre, puisqu'on n'a rien. Mais quand même, il y a ce côté très encourageant de se dire, regardez, quand on se compte, nous, les petites fourmis, on peut quand même faire un peu patiner l'éléphant. Et rien que ça, symboliquement, c'est quand même intéressant. Et vraiment, on ne fera jamais pire que ce qu'a été là. Et avec toutes les leçons qu'il y a à tirer, je ne peux pas croire, même en n'étant pas un grand optimiste de nature, qu'on puisse faire aussi pire que ce qu'on vient de faire tomber par terre.
Un petit mix.
Interlude musical, programmation à Roger. On enchaîne du rock'n'roll, bien sûr. C'est marrant, je vous imaginais plus sur la plage à gratter les cailloux que sur la planche de surf, mais bon.
Ouais, mais bon. Ça dépend. Bah, vous voyez, le 31 janvier, j'aurais pu aller gratter les cailloux, mais je n'irai pas gratter les cailloux, j'irai pas tuer des bêtes parce que, eh ben, il y aura le samedi 31 janvier 2026 de 16h à 21h les rencontres BD à Grabuge. Alors, vous aviez quelques éléments
oui,
à rajouter.
Oui, je vais juste préciser que de 16h à 19h, il y aura les stands, il y aura aussi un atelier BD. Et l'atelier Croquirama pour se faire dessiner la trombine. Il y aura un forum voilà, avec un animateur qui durera de 16h à 19h30 aussi. Et à partir de 19h30, on va être plus sur moins des stands et tout ça, on va être plus sur des jeux de dessin collectif. C'est-à-dire que il faudra alors ceux qui n'auront pas de quoi dessiner, on leur prêtera, mais on sera sur des contraintes où tout le monde devra dessiner. Y compris le public. Voilà. Okay. Et y aura des sessions d'impro en même temps que les musiciens jouent. Voilà. Ça sera la partie de 19h30 à 21h qui sera plus interactive. Quoi.
Est-ce qu'on aura les gens qui font peur à mon chien?
Mais non.
Si, les gens dont vous avez le
Font perdu.
Font perdu, viennent pas chanter.
Alors, sans négociation, mais
ils ont un morceau.
Je crois qu'ils ont décidé de quitter la scène.
C'est vrai.
Alors, ils ont fait un kiff.
Du off.
Mais peut-être qu'ils vont renaître de leurs cendres. Je sais pas, peut-être qu'ils nous entendent là en ce moment et que finalement ils vont apparaître.
Parce qu'ils ont un morceau. J'ai eu le malheur d'emmener mon chien le jour où ils ont joué dans les studios. Mon chien m'a dit il faut qu'ils arrêtent là maintenant. Faut qu'ils arrêtent. J'ai cru qu'il allait mordre dans leur guitare. On va entendre ça tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on a bien fait un petit peu le tour? Parce que l'heure tourne, il est 11h32. Et j'aimerais quand même qu'on parle de... Ah oui, bah oui, c'est parce que c'est le matin, excusez-moi. Puis j'ai une gigantesque horloge. Il ne sera sûrement pas 11h32 quand vous entendrez ça.
En tout cas, si on veut retrouver l'événement, il y a l'événement Facebook. Si vous voulez retrouver le programme et les infos.
Voilà. Oui, on mettra les liens.
Si vous êtes perdus.
Sur notre blog et tout ça, on va faire suivre. On peut peut-être parler du travail de Mandragore.
De nos invités, de nos auteurices, comme on dit maintenant lorsqu'il y a une femme et un homme, on dit plus des auteurs, on dit des auteurices.
Alors ça c'est un peu un néologisme, mais autrice, effectivement c'était un mot...
Autrice, donc vous êtes une autrice. Et à ce titre, comment vous venez de remporter le prix Artemisia dans la section Beaux-Arts, prix 2026. Alors, le prix Artemisia, c'est un prix féministe qui est à l'origine, a été créé par...
Jeanne Puchol et Chantal Montelier.
Chantal Montelier, une ancienne autrice qui était déjà dans Métal Hurlant il y a très longtemps, qui est à l'origine de la création d'un mensuel de bande dessinée Anana, qui n'a malheureusement pas survécu longtemps. Et donc le prix Artemisia, il existe depuis combien de temps?
Je ne sais même plus, mais ça fait un longtemps.
Ouais, une petite dizaine d'années, et c'est con parce que j'avais tout, et puis j'ai oublié mon dossier.
Il n'a pas révisé.
Non, mais j'ai oublié mon dossier, c'est carrément pire.
Votre téléphone, vous voulez dire.
Ouais. Et je suis parti vraiment à l'arrache ce matin, et de ce fait, j'ai oublié depuis quand, effectivement, j'avais tout un petit dossier sur le prix Artemisia. Et alors,
comment il est remis? Qui est le jury de ce prix?
Parce alors maintenant prix, c'est un jury par des mixte. Gens. Au début c'était un jury
uniquement féminin,
et puis au bout d'un moment, donc je vois que fondé en 2007.
Oh, quand même.
Le prix ça fait quand même un petit moment.
Ouais.
Voilà, et au début c'était un jury féminin, et puis petit à petit, maintenant c'est un jury mixte. Bon, c'est un mélange de journalistes, d'auteurs, d'autrices, de gens qui travaillent dans la culture.
Mais alors maintenant, alors qu'avant il n'y avait qu'un seul prix, maintenant il y a plusieurs catégories. Vous, c'est la catégorie Beaux-Arts, c'est ça?
Oui, voilà. Comme c'est un prix international, il était difficile pour le jury de choisir qu'une BD par an. C'est ce qui a été le cas pendant pas mal d'années. Donc maintenant, il y a effectivement 5 prix, si je ne me trompe pas. Et dans différentes catégories. Donc moi, par exemple, j'ai eu la catégorie Beaux-Arts parce que c'est vrai que mon histoire est liée à un autre art qui est la peinture, puisque ça s'appelle Le Dernier Peintre, déjà rien que le titre. On dit tout. Et il y a aussi Presque Lune, donc nos collègues qui sont aussi sur le Pays Rennais, qui ont édité une autrice italienne qui s'appelle Elena Mistrello, et qui elle a eu le prix Résistance, donc c'est plus de la BD engagée. Voilà, après les autres prix, bah, ça, j'ai pas retenu tout ce qu'il y avait comme prix, mais en tout cas, voilà, il y a des thématiques qui ressortent pour chaque prix.
Alors là, c'est nous naturellement. Là, cette fois-ci, je ne l'ai pas lu. Je tiens à le dire. Hein, j'espère que vous n'allez pas me faire comme
un Dupontel,
une Dupontel, comme vous en allez en claquant la porte, parce que je ne voulais pas le lire puisque je vous l'ai acheté seulement ce matin. Vous l'avez emmené sous le bras.
Et, c'est bien. Ça veut dire que tu lis vraiment.
Voilà, ça veut dire que nous, à Plume et Pinceau, on n'est pas des professionnels, donc on lit les BD avant de les chroniquer. Alors, à défaut de la chroniquer, puisqu'on ne l'a pas encore lu, vous nous racontez. Vous avez inventé l'histoire de Charles Mazoff, un peintre, le dernier d'une société folle qui a décidé de classer l'art comme une pathologie, c'est-à-dire comme une maladie. Soigné dans une institution pleine de bienveillance, le peintre ingénu mais subversif va semer le trouble chez certains et l'éveil chez d'autres. De la science-fiction, une dystopie, on va dire.
Oui, bah, c'est pas trop mon créneau d'habitude, les dystopies, autant en tant qu'autrice que lectrice, mais j'ai eu effectivement cette idée-là aussi de ce qu'on vit, nous, artistes, au quotidien. On est sans arrêt en train d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait, de justifier pourquoi est-ce qu'on on s'emmerde à bosser comme des dingues pour finalement rien gagner et puis une reconnaissance pas toujours terrible, quoi. Et au bout d'un moment, ça vous travaille, on dit mais en fait si j'étais pas là ça serait mieux, quoi, finalement. Et donc je suis partie de cette base là que mon personnage principal, oui, finalement tout le monde le pousse à arrêter de faire ce qu'il fait, mais il ne sait rien faire d'autre que peindre. Voilà, c'est moi, je me dis souvent ça, mais si on me retirait la BD et la musique, qu'est-ce que je ferais? Je serais incapable de faire autre chose, en fait. C'est presque un handicap. Voilà, et donc je suis partie de ce constat, et mon personnage se construit autour de ça. Il est refoulé un peu de partout, et au final il atterrit dans une institution qui, avec beaucoup de bienveillance, essaye de le soigner pour sortir de ce blocage, quoi. Et dans cette institution, il y a aussi des gens qui font de la musique, qui en faisaient en tout cas, des poètes, des acteurs, etc. Et comme mon personnage principal est, comme je dis, ingénu et tout à fait sincère, il dit tout ce qu'il pense, mais il finit par créer des troubles chez les médecins qui, eux, sont un peu dans leur tunnel de pensée, dans leur société bien pensante où l'art n'a plus aucune place. Mais voilà, il va créer des failles et qui vont créer des cataclysmes. Et puis il va aussi créer l'éveil d'une jeune patiente qui, elle, dessine, mais ne voit pas, en fait, la qualité de son dessin et ne comprend pas, en fait, qu'est-ce que c'est que l'art. Et donc il va lui expliquer. C'est l'occasion, en fait, de parler de création, ouais, de parler de peinture aussi, puisque moi j'ai fait aussi des études d'histoire de l'art, donc l'histoire de la peinture m'a beaucoup travaillé. Il y a un petit peu de tout ça là-dedans.
Alors c'est rigolo parce qu'il vit dans un univers, enfin rigolo non, parce qu'il vit dans un univers qui est tout noir, et les seules taches de couleurs, les seules couleurs, elles sont à travers son travail. C'est lui qui...
Les peintures, ouais, c'est peintures à lui. Puis il y a aussi, je fais des citations graphique, il y a une peinture, le cri de Munch,
Il y a Van Gogh, il y a aussi
le dernier tableau de Van Gogh, etc.
Donc tous des rapports à la folie, parce qu'il y a le Guernica de Picasso, voilà, qui est l'humain qui se tient les bras en l'air, qui est vraiment la folie sous les bombes allemandes. Il y a en effet Van Gogh, dont les passages à l'asile sont bien connus. Pareil, le cri de Munch, c'est aussi la folie. Donc il y a toujours un rapport avec la folie. Qui sont les fous? C'est deux mondes réels. C'est comme Brésil. Il y a le monde de dessiné au crayon à papier, au fusain, avec des cases. Et quand l'art apparaît, la couleur, les cases s'effacent, les bordures. Il n'y a plus de frontières. L'art, c'est effacer les frontières. On se sent des fois plus frère avec des gens d'un autre continent que nos voisins quand on partage ce supplément d'âme que nous amène la musique, le dessin, la
danse.
Voilà,
oui, c'est La couleur, j'avais décidé dès le départ que la couleur n'apparaîtrait que quand elle a un sens bien précis. Et donc il y a les émotions aussi. Il y a quelques émotions, quand elles apparaissent, il y a un tout petit peu de couleur qui apparaît, quoi.
Le cheveu de la danseuse, par exemple.
Ouais, oui, voilà, le mouvement de la danse, la musique, les notes de musique, où à un moment la jeune fille, elle a une émotion au niveau du goût du sang et du parfum d'une rose, et là il y a du rouge qui apparaît, voilà, c'est vraiment et en fait la couleur, elle a d'autant plus d'intensité qu'elle n'apparaît que ponctuellement.
Oui, qu'elle est rare. Est-ce que c'est il y a un petit côté Fahrenheit 451?
Complètement, complètement. Pourtant je l'ai pas lu, mais en fait je pense que je devrais vraiment le lire. parce que oui, il y a cette peur, mais on s'en rend, enfin, malheureusement, alors il y a des gens qui disent mais non, ça n'arrivera jamais que l'art soit mis de côté. Mais moi, au quotidien, entre le moment où je suis née et l'âge que j'ai maintenant, je vois quand même qu'il y a un vrai problème avec la place de la culture, quoi. En général, l'art, et pas que l'art,
qu'est-ce
la culture,
que la culture,
en général,
voilà. Quand on écoute Lepage, je connaissais les conférences gesticulées, qui a des rapports sur l'histoire de la création du ministère de la culture, comment ça sert la bourgeoisie pour la faire basculer vers la grande bourgeoisie et couper la culture ouvrière. Ben, c'est passionnant et ça rejoint des thèmes. Je pense au tableau aussi de Baudouin, l'album Le Tableau, je sais pas si c'est dans tes références, c'est de Montbaudouin aussi.
Oui, mais je l'ai pas lu celui-là. Ouais. Mais il y a aussi le basque entre la notion d'art et de divertissement. Oui. C'est-à-dire que là, je sais pas, par exemple, on va au marchand de journaux, on cherche une revue qui parle d'art, on est dans la section loisirs. Voilà, typiquement. Et il y a eu ce basculement. D'ailleurs, il y a un livre aux éditions La Fabrique, j'ai oublié le nom de l'auteur, qui s'appelle La domestication de l'art, qui est très intéressant parce qu'il étudie, un peu comme Franck Lepage, comment on récupère en fait le fait culturel, on fait du business avec, et ou de la politique, voilà, et finalement, on est en train de passer dans la sphère du divertissement, parce que ça se vend beaucoup plus facilement du divertissement que ce qui fait réfléchir.
Et l'exemple américain, notamment actuel, nous montre bien que l'art est un... Il y a une guerre culturelle vraiment très marquée aux États-Unis. Enfin, on enlève des livres dans des bibliothèques.
C'est incroyable. Même le dernier Mouse d'Art Spiegelman est retiré des écoles, quand même.
C'est tout le thème de la confiscation, le détournement des imaginaires. C'est parti de Gramsci, de gauche. C'est récupéré, exact. Très bien compris, à droite et l'extrême droite. Ils n'achètent pas des chaînes télé, radio et des journaux
pour
frimer en se disant « je protège la liberté de la presse ». Évidemment que c'est l'inverse. Qui peut sincèrement croire ce qu'ils disent là-dessus ? Il y a une raison, c'est changer la couleur de ce qu'on a dans la tête et nos émotions, nos sensibilités, et de là on fait
nos grilles de valeurs. Nos grilles de valeurs, ouais, exactement. Très bel album, on dirait bien.
Ça me fait penser à, je sais pas, je me
ça fait réfléchir.
Je l'ai pas lu, mais c'est peu... vous là le personnage de.
Alors, c'est en fait les deux personnages sont un peu moi, c'est-à-dire que la gamine là, c'est un peu moi quand j'avais cet âge-là, pas 13-14 ans. Et le dernier peintre, c'est un peu moi aussi, c'est-à-dire c'est différentes polarités de ce qu'on peut vivre quand on essaye d'avoir une pratique artistique dans une société qui l'admet difficilement et où il faut toujours se battre pour dire moi depuis que j'ai 5 ans je veux faire ça et en fait il y a des tas de gens qui veulent nous empêcher de faire ça, mais pourquoi, alors que l'art est pour tous, donc et pourtant voilà, il y a toujours un petit peu cette guerre qu'on doit faire pour défendre son art.
Alors, vous êtes basé d'ailleurs sur une bibliographie, c'est rare d'ailleurs de voir ça, là. Vous citez tous les ouvrages qui vous ont inspiré pour créer. Alors,
ça se fait de plus en plus quand même dans les BD maintenant. C'est vrai que dans les BD, avant on mettait juste du même auteur d'ailleurs, mais en fait, je vois de plus en plus d'auteurs qui font ça. Puis moi, quand je me lance dans une bande dessinée, surtout s'il y a un thème un petit peu documenté, parce que là je parle quand même beaucoup de peinture, et puis le fait que j'essaie de m'intéresser au monde psychiatrique que je connaissais très mal, j'ai lu des bouquins pour pas être complètement à côté de la plaque. J'en ai lu plein, il y en avait une bonne moitié voire plus qui étaient sans intérêt. Par contre, voilà, j'ai mis la liste de ceux qui m'ont vraiment intéressé, ou des textes dont j'ai cité quelques extraits aussi.
Et des ouvrages, carrément, on peut parler d'ouvrages politiques avec l'insurrection culturelle, la domestication de l'art, l'ordre caché de l'art, etc.
Oui, il y a des choses plus ou moins philosophiques ou plus ou moins politiques, mais en tout cas, il y a des...
Mais l'art est politique, sinon ça s'appelle un écrou à le roi Merlin, je veux dire.
Si
c'est pas politique à un moment ou à un autre, on n'est pas obligé de le prendre, on peut le laisser de côté, garder le côté fun, esthétique, joli, mais voilà, là vous dites que vous avez eu le prix Beaux-Arts, mais ça collait autant avec la BD de l'engagement, sauf que c'est pas forcément aussi frontal que ça.
Ça dépend de ce que les gens imaginent mettre derrière le mot politique, et en fait chacun met pas forcément la même chose. J'ai eu le débat avec plein d'auteurs justement. sur ça. Mais je suis assez, assez d'accord avec toi. Oui.
Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides, effectivement, parce que vous êtes venu avec d'autres productions des éditions
oui,
de l'œuf,
bah,
et vous avez bien raison. Vous avez
voilà.
bien raison.
Moi, j'ai toujours des livres dans ma poche. Voilà.
Alors, donc, ça, c'est dans les derniers ouvrages parus dans le catalogue des éditions
de l'œuf.
C'est ça.
Le dernier peintre est sorti déjà il y a quelques mois, mais plus récemment, donc il y a Lille, qui est une autrice, un album d'une autrice espagnole. Qui est très très beau, c'est une peintre quasiment, elle a vraiment des compositions où là le graphisme prend plus de place que le texte, mais il y a quand même du texte qui est très très bien traduit par une traductrice.
C'est la première fois que vous faites des autrices ou des auteurs étrangers ?
Non. Alors je dirais, il y a Angoulême qui compte là-dedans, puisqu'il y a beaucoup de rencontres qui se sont faites à Angoulême. Ça m'est arrivé de traîner à l'espace des droits internationaux, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Puis après, c'est des histoires de rencontres. On a des auteurs qui nous démarchent régulièrement, y compris de l'étranger. Des agents, etc. Donc là, moi, elle, c'est particulier. J'avais vraiment flashé sur son travail en voyant le catalogue de Random House. Et c'est moi qui ai fait la démarche de demander les droits. C'est rarement comme ça que ça se passe. En général, c'est plutôt des hasards de rencontres.
Un coup de cœur personnel, alors.
Là, c'était un coup de cœur personnel. Bon, après, on est quatre dans le comité de lecture, donc il faut toujours quand même qu'on
valider,
soit,
d'accord.
Qu'on soit
ouais.
Qui a un consensus à quatre, ce qui n'est pas toujours simple. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle légende qui se passe sur une île avec une malédiction. Voilà, c'est une autrice qui a une quarantaine d'années, qui a fait pas mal de choses en Espagne et qui commence à publier en France et son deuxième album en France. Et voilà, une petite pépite.
C'est un graphiste très, très beau, très rond, avec des formes. C'est comme s'il y avait deux camaïeux qui s'affrontaient à chaque fois.
Il y a beaucoup de bleu, puis il y a du rouge qui arrive aussi.
Et ouais, comme s'il y avait le ciel avec la mer, et des fois c'est le ciel avec la terre qui forme plein. Il y a un petit côté Magritte peut-être aussi.
Oui,
les formes
vrai.
Découpées au ciseau de sa période tardive. C'est quelque chose de très doux, poétique. On se demande, ça fait une figure de sirène un peu légendaire sur un port de pêche.
Oui, on est vraiment dans un monde un peu.
C'est liquide, on dirait que tout ça, c'est très,
c'est ça,
très
c'est
fluide.
Vrai, c'est fluide ouais.
Moi, je l'ai vu, j'ai feuilleté, c'est à la librairie des Jacobins, la librairie bande dessinée. J'avais vu, il m'avait tapé dans l'œil, j'avais même pas fait gaffe que c'était l'œuf. J'avais pas fait attention, c'est vraiment le livre, l'objet. Et surtout, tous vos livres sont en mat, si je dis pas de bêtises.
Oui, on met pas de pelliculage.
De vernis.
Ouais, et ben moi, j'aime ça, parce qu'il y a des livres qui m'intéressent parfois, mais l'aspect brillant qui les rapproche pour moi d'un prospectus Super U plutôt que d'un objet qu'on va caresser dans le lit. Comme vous dites, Roger, avec une tablette de chocolat blanc et son chat à caresser. Ben moi, c'est typiquement...
Le pelliculage pour moi, les amateurs de chocolat en lisant la BD, ça présente un intérêt, c'est celui d'éviter de pourrir la couverture, quand même. Parce que j'ai eu des dégâts.
Bah, si tu poses ton café dessus, ça marche pas.
Ouais, voilà.
C'est ça.
Même un petit bout de chocolat, si
non,
vous avez un petit bout de chocolat...
Non, c'est vrai que c'est un choix qui n'est pas facile parce que les livres peuvent s'abîmer plus vite.
Ouais.
Par contre, c'est intéressant pour une raison. Si on recycle le livre, il est beaucoup plus facile à recycler.
Ah bah oui.
Voilà.
Et vous vouliez nous parler aussi de l'envolé.
Alors celui-là, il arrive en librairie le 6 février, je crois. Envolé, c'est un livre fait à deux mains, dessin et scénario mélangés. Un auteur de Saint-Étienne et une autrice de Paris. Et voilà, c'est un livre très poétique qui raconte l'itinéraire de trois personnages qui cherchent à s'envoler, qui sont bloqués chacun dans leur vie par certaines choses et voilà, et qui cherchent leur envol. Et là, sur la couverture, il y a un oiseau.
On dirait une corneille. C'est malin, les corneilles.
Envolé par
le gars
Isadora
du terroir.
Vous
et
savez
Alexandre
que Kahn. J'ai vu, et c'est pas de l'IA, un dingo qui dresse comme une corneille qu'il avait apprivoisée à chasser les casquettes MAGA. C'est-à-dire que sous les casquettes rouges, il met des friandises. Et du coup, maintenant, quand son corbeau apprivoisé voit une casquette rouge sur la gueule de quelqu'un, il lui enlève la casquette parce qu'il s'attend à trouver sa friandise préférée. C'est malin, c'est malin.
Ils ont juste trouvé les êtres humains moins intelligents que la corneille. Il a souvent sous une casquette rouge.
Et en tout cas, on retrouvera les liens de ces deux derniers ouvrages, ainsi que naturellement du dernier peintre, sur le bloge de Plumes et Pinceaux. So bientôt.
Et puis vous les verrez le 31 janvier, si vous venez, il y aura tous les livres de l'œuf aussi.
Voilà. Alors, on va continuer, parce qu'on met un disque ou on continue, parce qu'il est déjà moins 10, c'est vous le patron.
Il va nous rester, j'écouterais bien Fonds Perdus, mais peut-être on a 3-4 minutes Fonds Perdus en priorité, et on se dit, à mon avis, au revoir assez rapidement.
Mais on dit quand même un mot quand même sur comment le dernier Fox Boy, quand même.
Bah oui, moi
vous l'avez déjà fait. Non, mais c'est vrai.
On l'a déjà fait.
Il y a quelques mois.
Je l'ai chroniqué, ouais.
Vous l'avez chroniqué. Ouais. Oui, c'est vrai, vous le chroniquiez. Ouais.
Tu vois, il m'écoute plus. Tu vois, il est en confort, tout ça. Voilà,
j'ai l'impression d'être avec ma femme. des vieux reproches, comme quoi je prendrais tous les draps.
Alors, interlude musical. Fonds Perdus, quand même, hein, le morceau s'imposait. Hein.
Bah oui.
Mais oui.
Le mec fait une planche de BD par jour. Dans la belle grande famille culturelle, y'a le père, la mère et les sales gosses. Et sous l'évier, en PLS caché, à côté de la poubelle, y'a les auteurs de BD, les experts. Des pâtes au beurre, à la chapelure de gomme et des mauvaises odeurs. Les crevards, une armée de zombies, de zonards, les sales bâtards du 9e art. Petit Mickey, petit dessin, petit cribouilli, dédicace sur un salon où chacun est payé, chacun son bifton, chacun sa monnaie sauf les auteurs de BD. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Sauf le week-end, bien sûr, le week-end, il va au Lidl. Pas dans la classe des middle. Shibam, Paul, Blob, Whiz. Le comic strip est en bad trip. La chaîne du livre est en roue libre. Elle perd les pédales et puis aussi son slip. Tonnerre de Brest, on a marché sur la lune. France travaille, me demande de la thune. Champion du monde des identifiants. Des mots de passe-passe, du taf, de l'URSSAF. RSA, sport de combat. RSA, sport de combat. La précarité est un art invisible, trimé comme un chien mais toujours rester digne. La précarité est un art indicible, trimé comme un ouf sans peur de bling bling. La question que tout le monde se pose, hein, alors est-ce que vous en vivez un? Je dirais que pour l'instant, je n'en suis pas mort. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Sauf que vous kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Sauf le week-end, bien sûr, le week-end.
Bonjour, on est un festival de bande dessinée. On adore votre travail. On aimerait vraiment que vous fassiez l'affiche. Par contre, on n'a pas d'argent. En échange, ce qu'on vous propose, c'est de la...
Visibilité, foutage de gueule, c'est ta signature sur mon devis. Visibilité, m'arrête du cul bien cordialement. Au nom de Crumb, doucet, ébré, déchet, priez pour nous et remplissez nos gonfriers. La chair de ma chair est un phylactère, je serai jamais l'élu, mais ma maman sera fière. On est vraiment trop con. Drapé dans l'illusion de métier passion, d'un métier qu'on aime, mais bon quand même, j'irai chasser le fauve au safari d'Angoulême. Au safari d'Angoulême. Au safari d'Angoulême. Au safari d'Angoulême. L'aime, l'aime, l'aime. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Sauf le week-end, bien sûr, le week-end. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Sauf le week-end, bien sûr, le week-end. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool BD, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool BD, sinon je te dirai...
Thank you. planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Sauf le week-end, bien sûr, le week-end. Le mec mange une tranche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Sauf le week-end. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Sauf le week-end, bien sûr, le week-end. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour. Le mec fait une planche de BD par jour.
Voilà le morceau qui fait peur aux chiens.
Roger. Ah, Floppy, bah non, Floppy n'est pas le chien le plus vaillant. Il fait souvent penser...
Tel chien, tel maître ?
Non, il fait penser à un dessin animé qui s'appelait Le Chien Courage, que je regardais avec mes enfants lorsqu'ils étaient petits. Et c'était un chien qui avait toujours peur. Il habitait avec son papy et sa mamie. Il y avait des monstres terribles, des monstres mutants dans le jardin. Et le chien était là, ça craint, ça craint. C'est ce à quoi un peu... c'est ce qu'il m'a dit à propos de Fond Perdu. Et c'est dommage qu'ils arrêtent la musique, parce qu'à mon avis, il y avait du fond.
Ça, c'est pas sûr, hein.
C'est pas sûr.
C'est ils vont peut-être renaître de leurs cendres, tels des phénix.
Voilà.
L'éternel retour, c'est magnifique.
Eh bien, l'éternel retour, c'est aussi. Alors, c'est vrai que vous le chroniquez. Un petit mot, peut-être, quand même, sur Foxboy, puisque là, on a l'auteur. Ah oui. Vous l'avez chroniqué tout seul.
Oui, je dois avouer que je l'ai trouvé vraiment très intéressant avec sa dimension. Enfin, quand on vous connaît un petit peu, et à force de se fréquenter, je crois que je vous connais un tout petit peu.
On se croise dans les vides grenières. Galette saucisse.
Galette saucisse, allez. je le trouve. C'est votre album, je trouve, le plus personnel.
Oui, sûrement. Mais
vous mettez le plus de vous-même.
Ouais. Mm-mm. Bah oui.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que vous voulez ? La quarantaine traînante, retour à l'enfance, tout ça.
En tout cas, c'est le quatrième tome. Vous êtes déjà sur le suivant ?
Oui.
Ah, et ça avance ? Parce que vous faites des tas de trucs, Laurent Lefebvre. Vous faites des tas de trucs. Vous vous dispersez.
Je viens vous voir
un peu.
Déjà. Je repars avec moitié moi de cerveau quand arrivons.
Non, on n'a pas bu aujourd'hui.
Du café. Vous serez à ce fameux festival Rennais qui était au cœur de notre actualité du jour.
Évidemment.
Ah, très bien. Alors, Roger, vous êtes prêt ? C'est le moment. Rappelons les dates, les lieux, les horaires. Il faut tout redire, Roger. Attention.
Oui. Alors, c'est
parti. Le petit Roger, il va parler.
Voilà, ça sera le samedi 31 janvier 2026,
c'était il y a 20 ans.
On est
petit ange parti
léger différé
de 16h à 21h. L'entrée sera libre. Les rencontres BD à Grabuge, la Courroux, ça me permettra de découvrir ce lieu que je ne connais pas, en tout cas. Il y aura tout plein de choses. Le Grabuge, c'est 24 avenue Jules Magnier, c'est le métro La Courroux. C'est le métro que je prendrai, en tout
à
cas.
À côté de l'Antipode.
Ouais, c'est ça.
Des stands. On y croisera. On parlait de ça tout à l'heure en antenne. On y croisera. Il y aura Lionel Chouin, par contre. Lui, il sera
oui.
là.
Ouais.
Oui. Hein, il a noté qu'on en parlera sûrement. On le fera même sûrement venir. Mais il nous sort une BD. C'est chez Glénat, je crois.
Oui. Hein.
Chez Glénat, une BD sociale.
Bleu de Chauffe. Sa première, totalement. Ça fait des années qu'il marche vers le. Enfin, moi, j'attendais qu'il fasse un album de bout en bout.
De A à Z, ouais.
De A à Z en tant que scénar. Puis il a tellement de choses à raconter. Il est passionnant, Lionel.
Et il fait ça. Ouais, il le dit d'ailleurs. C'est la première fois qu'il fait tout le scénar, le dessin, les couleurs. Et puis.
C'était déjà le cas de la BD des Sex Pistols, sauf qu'il avait un petit encadrement très distant qui ressemble à du coach pendant un maître de stage, on va dire. Il était déjà tout seul, en vrai. Mais la confiance est longue à venir chez les auteurs les plus sensibles, les plus intéressants, et Lionel en fait partie.
Oui, comme on s'est bien dit.
On aura également, aussi gentil qu'il est grand, le monsieur Oussin, qui viendra avec tout un tas, Laurent Oussin, qui viendra avec tout un tas de spécialités brésiliennes.
Des bracelets, notamment.
Bracelets.
Gilles
Bertogil. Tête réduite, comment dirais-je, tête réduite de Givaro.
Ondulque, alors.
Voilà, il a un incroyable livre qui s'appelle Certao, ouais. et qui lui a valu de faire une tournée de au moins deux mois, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, minimum
partout. En Amazonie, même Lula.
Et je pense qu'il s'est perdu un moment, il s'est perdu dans la jungle.
Moi, je me suis même posé la question de savoir s'il allait revenir, parce qu'il avait l'air d'être très bien là-bas.
Bah, vous l'avez revu depuis, ça se trouve, il a vachement changé.
Ah, c'est incroyable ce qu'il a fait à la là-bas, c'est vraiment Tintin l'oreille cassée. Hein. Il vous le racontera, c'est vraiment génial.
D'ailleurs, on a hâte de le rencontrer le 31, puis il reviendra dans les studios pour nous en parler, s'il le veut bien, et ce que j'espère, effectivement, pour nous parler un petit peu de tout ça. Est-ce qu'on a fait le tour, par contre ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Ah oui, allez-y Laurent, alors, du coup.
Bon, moi, super petit album, coup de cœur, lecture, vraiment très rapide, 30 secondes. Il s'agit de Monsieur Terreur Graphique, qu'on connaît bien à Saint-Malo, qui est début, parce qu'il a longtemps fait partie de la bande. Et il s'en était éloigné quelques années pour une bonne raison, c'est que ce monsieur est alcoolique. Et ce livre qui vient de sortir chez Casterman, justement, je le dis parce que c'est pas un secret, puisque l'album s'appelle L'Addiction, s'il vous plaît, où on voit un chien dessiné façon, vous savez, ces vieilles pubs du bon haut, du bon, du bonnet, et ces graphismes années 30. Ce sont les confessions d'un alcoolique qui se soigne, car vous le savez, qu'on boive ou qu'on soit sobre ou pas, on reste alcoolique tout le temps. Et c'est extrêmement touchant, c'est un hommage formel à la BDC, de la bichromie. Donc vous voyez, c'est un peu comme des vieux Picsou, on a un mélange de couleurs bleu et un rose très très éclairci pour dessiner ce personnage qui se représente lui avec une tête de chien et c'est extrêmement, enfin moi ça me désarme de sincérité.
C'est très courageux.
Il parle de sa maman, de son papa, de son histoire.
Ouais. Son papa qui avait déjà le museau dedans.
On connaît tous des gens qui ont eu ou qui ont un problème avec l'alcool à différents degrés. C'est un livre que je dévore et que je sais déjà que je vais offrir.
J'ai dû avouer que j'étais très tenté, effectivement.
Et c'est chez Casterman, et ça coûte 23 €, parce que j'aime bien donner les prix.
Et c'est et j'ai toujours été très admiratif, moi, des gens qui avaient véritablement le museau dedans à fond les ballons, et qui sont capables de dire, un jour, stop, j'arrête, parce que sinon, c'est la mort au tournant, et la mort sociale, pas seulement la mort physique, mais avant la mort sociale et après la mort physique. Et moi, je dis, bravo, monsieur Graphique, en tout cas.
Ouais, respect à lui. Ouais. Merci messieurs dames d'être venus. C'était
merci,
cool.
Merci Canal B, merci Plume et Pinceau.
Oh, c'est trop gentil.
Merci Charlie.
Et bonjour chez vous. À la semaine prochaine, bonne lecture tant qu'on a le droit, parce que la BBD finalement est toujours vivante, même malgré Angoulême.
Eh ouais.